Parole d'auteur. Parole d'auteur, Philippe Gilbert.
Aujourd'hui, émission spéciale, un auteur, deux ouvrages. Vous allez découvrir les coulisses du polar et du roman. Un auteur va vous dévoiler tous ses secrets d'écriture, ou presque. Si vous voulez tout savoir sur le roman et le cozy crime, écoutez bien ce qui suit. Il vous explique l'élaboration d'une histoire, la construction des personnages, la création du suspense et tous les ressorts d'un bon polar. À la lumière de deux ouvrages mettant en scène une hôtesse de l'air éjectée d'un avion en pleine tempête d'une part et un tableau de Pierre Soulages qui devient blanc d'autre part, il va vous faire découvrir les mécanismes de l'intrigue policière, la tension dramatique et l'art de tenir le lecteur en haleine jusqu'au dénouement final. Cet auteur, c'est Gérard Muller que nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui dans Parole d'auteur. Merci d'être des nôtres dans Parole d'auteur. Donc aujourd'hui, vous avez bien compris, Gérard, que c'est Parole de Gérard Muller. Je salue nos fidèles auditeurs et je leur rappelle qu'ils pourront retrouver cette émission sur notre site Radio Présence ainsi qu'en podcast sur toutes les grandes plateformes numériques. Gérard Muller, première question. Est-ce que l'imagination est un don ou bien est-ce que l'imagination, ça se travaille ?
Oh, je vais commencer par une question assez difficile. Je pense que c'est les deux. Je pense qu'il faut un don, il faut être curieux. Je pense que dans la vie, d'abord, il faut être curieux. C'est une qualité essentielle. Et après, l'imagination, ça se travaille. Alors, quelquefois, on est en perte d'imagination. Ben, l'astuce, c'est de faire autre chose. Et puis, d'un seul coup, le cerveau a travaillé pendant qu'on fait autre chose. Et l'imagination revient et on trouve... on continue à poursuivre le fil de l'histoire. C'est comme ça que ça marche. Enfin, pour moi, en tout cas.
D'accord. Hein. Bon, a priori, vous aviez quand même dans les gènes, vous étiez bien doté en termes d'imagination.
Oui, je pense que oui. Je pense que mes parents ont bien travaillé de ce côté-là, oui.
Alors, je voudrais rappeler à nos auditeurs un petit peu votre biographie, puisque vous êtes déjà venu nous voir, justement, pour nous présenter un des deux livres au sujet desquels nous allons... parler aujourd'hui, qui s'appelle « Tous les chemins de vie descendent du ciel ». Alors, vous êtes un ancien ingénieur de l'industrie spatiale,
oui.
Expert en pilotage des satellites.
Oui.
Et vous nous aviez dit l'autre fois que vous aviez deux passions, l'écriture de romans et le golf. C'est toujours le cas, je suppose ?
C'est toujours le cas, oui, oui.
Et est-ce que vous avez amélioré votre handicap depuis l'autre fois ?
Non, malheureusement, non. Non. Non, l'âge aidant, j'ai quelques petits problèmes... musculaire, mais donc non. Mais alors, j'ai toujours le plaisir à jouer au golf, ça c'est sûr. Hein.
Alors vous êtes, je ne sais pas comment vous qualifiez, vous êtes romancier, nouvelliste, poète.
Je suis un peu tout ça, parce que j'ai commencé par la poésie. Je trouve que la poésie est une excellente école pour la littérature, hein, parce qu'on apprend à, justement à travailler l'imagination, à travailler le vocabulaire et la musicalité des textes. Hein. Et après, on passe normalement aux nouvelles, qui est un exercice beaucoup plus difficile qu'on pense, puisqu'il faut être concis. Et puis après, les romans. Voilà. Donc je pense que c'est une... je ne suis pas le seul auteur à avoir fait ce parcours. Hein. Mais je pense que c'est un excellent parcours.
Alors vous avez coutume de dire que, contrairement à ce qu'on croit en France et en Europe, l'écriture, c'est quelque chose qui s'apprend. Et vous dites que les Américains ont bien compris ça, puisque eux, effectivement, ils apprennent... aux gens, enfin à ceux qui sont intéressés au moins, à écrire, et que l'activité d'écriture ne repose pas uniquement sur un talent littéraire.
Tout à fait. Quand les Américains, mais tous les Anglo-Saxons, l'Anglo-Saxon passe par des écoles de creative writing, que ce soit dans des ateliers littéraires ou à l'université, et tous les auteurs de renom sont passés par là. Hein. Tandis qu'en France, on pense qu'on est un beau jour écrivain, comme Victor Hugo, on ne l'est pas. Quoi. Alors maintenant, il y a des progrès. Par exemple, l'Université du Mirail à Toulouse a été la première université à ouvrir une chaire d'écriture créative, de creative writing en français, ça donne l'écriture créative. Donc ça existe, ça bouge.
Alors c'est quelque chose qui vous tient à cœur et c'est quelque chose aussi qui nous a donné l'idée de cette émission parce que dans la troisième partie, on va essayer de voir avec vous quels sont les règles, s'il y a des règles, les consignes, les méthodes ou les méthodologies pour écrire. Alors, je sais que, par ailleurs, vous pratiquez cette activité de l'enseignement de l'écriture, puisque vous animez, alors je ne sais pas comment on peut l'appeler, un atelier littéraire au sein d'une association et dans laquelle vous coachez de jeunes écrivains ou des auteurs en devenir.
Exactement, oui. Ça s'appelle, c'est l'association Philémon, où je coach, où j'accompagne, pour parler français, de jeunes auteurs, alors jeunes entre guillemets, hein, ils peuvent être assez âgés, hein, qui veulent se lancer dans un projet d'écriture, alors que ce soit des nouvelles ou des romans. C'est un cursus à peu près de 3 ans. La première année, on décoince. C'est-à-dire que le plus difficile, c'est d'oser écrire, hein, c'est de se lancer. Hein. Comme je dis souvent, le plus difficile, c'est d'écrire la première phrase. Et après, une fois qu'ils se sont lancés, ben, je leur apprends les techniques de base d'écriture. On se lance dans des nouvelles, parce que c'est un exercice très, très formateur. Il faut être concis, il faut aller à l'essentiel, il ne faut pas se perdre dans des digressions, etc. Et ensuite, on passe la troisième année sur un roman où je les accompagne pour écrire leur roman. Et on va jusqu'à l'édition du roman. C'est-à-dire que j'essaie de leur trouver un éditeur. Alors que ce soit de l'auto-édition, si le roman n'est pas éditable par un vrai éditeur, ou des solutions numériques, ou un véritable éditeur. Aujourd'hui, j'ai formé une trentaine d'auteurs, dont 4 ou 5 sont publiés par des vrais éditeurs.
Alors, on va y revenir naturellement en détail tout à l'heure, puisque c'est très intéressant de connaître un petit peu les coulisses de l'écriture. Alors, parmi vos multiples activités dans le domaine de la littérature. Vous êtes en plus directeur de collection chez un éditeur.
Oui, édition Un autre regard à Albi. Voilà. Alors c'est un petit éditeur qui fait quelques romans par an, et aussi des livres jeunesse, et aussi des beaux livres, ce qu'on appelle des beaux livres. Ouais. C'est tout à fait intéressant aussi.
Alors c'est une activité très, très complémentaire à l'écriture, ou c'est totalement...
Oui, parce que en tant que coach ou accompagnateur, on apprend. Un coach qui n'apprend pas de ses élèves, c'est un mauvais coach. De même qu'un professeur qui n'apprend pas de ses élèves est un mauvais professeur. Hein. Et on apprend notamment à juger un texte rapidement, à s'auto-corriger soi-même. Parce que le plus dur dans l'écriture, c'est de s'auto-corriger. Hein. C'est très difficile de donner les outils à mes élèves, de voir les faiblesses et les qualités de leur texte. Parce que quand vous écrivez un texte, vous allez le trouver bien. Le lendemain, vous allez le relire, vous allez le trouver mauvais. Mais vous ne savez pas pourquoi. Et donc, j'essaye, moi, de leur donner les outils qui permettent de s'auto-corriger rapidement et d'évaluer rapidement un texte.
Alors, je voudrais que nous passions à votre bibliographie rapidement. Auparavant, j'aimerais signaler que, naturellement, vous êtes membre de l'Académie des livres de Toulouse.
Oui.
Alors, au niveau de ce que vous avez publié, vous pourriez nous préciser le nombre de publications ? Je n'ai pas réussi à les compter.
Oui, enfin, là, vous me poussez dans mon retranchement. Non, j'ai publié 75 livres. Hein.
Et vous avez commencé à écrire depuis quand ?
Depuis 12 ans. Donc, ce qui fait une moyenne de 6 par an, ce qui n'est pas un gage de quantité. Je ne suis pas sûr que ce soit un gage de qualité, puisque la plupart des auteurs font un livre par an.
Hein. Oui, mais ça, c'est intéressant de le savoir, tout de même.
Oui.
Ça veut dire que vous avez des réserves, vous avez un potentiel d'imagination qui vous permet d'enchaîner l'écriture.
C'est ce que je dis souvent, je n'ai pas écrit pendant 60 ans, enfin pas sérieusement. Quoi. Et donc j'ai accumulé beaucoup de matériaux pour que ce soit libéré maintenant que je suis à la retraite.
Alors on reviendra au choix des titres. En ce qui vous concerne, ce que je voudrais préciser, c'est que vous avez eu de nombreuses récompenses pour un certain nombre de vos romans que je cite rapidement. L'épouse du bourreau, qui a eu le prix 2023 du
La Plume d'Or, l'Académie des Livres de Toulouse.
Voilà. Sous le sable des tropiques, qui a été récompensé également par l'Académie du Languedoc.
Au Sénat, ouais. Une cérémonie au Sénat.
Voilà, ça valait la peine de le mentionner. Et en 2024, l'Académie des Livres, vous avez attribué le deuxième prix Polar pour un titre que j'aime beaucoup qui s'appelle Concerto gris pour une truffe noire. Mmh. Alors, sur vos choix de titres, nous y reviendrons tout à l'heure parce qu'il y a beaucoup à dire. Et récemment, vous avez publié Panique à la Cité de l'Espace, une enquête du gendarme Léon Claverie, donc Tous les chemins de vie descendent du ciel, comme on l'a précisé tout à l'heure. Et je m'arrête là dans cette énumération. Est-ce que vous pourriez nous dire, Gérard Muller, cette motivation, elle est venue tardivement. Qu'est-ce qui vous anime au fond de vous-même dans l'acte d'écrire?
Oh, je pense que, comme souvent, hein, ça vient de ma famille, et notamment de ma mère. Mes parents étaient assez littéraires, ils lisaient beaucoup. Et maman nous a entraînés vers la lecture très tôt. Lors de notre vie. Hein. Donc, elle nous a baignés dans une ambiance littéraire. Et puis, elle avait pas mal d'amis aussi qui aimaient la littérature, parce qu'à l'époque, tout le monde lisait. Hein. Et je pense que ça vient de là. Et puis, au fil de ma vie, je me suis découvert, je vais être modeste, un petit talent d'écriture. Parce que j'écrivais, par exemple, des scénettes quand il y avait une fête pour mes amis, une petite pièce de théâtre, etc. Et de la poésie. Et j'y ai pris goût, et donc c'est comme ça que j'ai dit, mais tiens, quand je serai à la retraite, j'écrirai. Et c'est ce que j'ai fait. Mais ce que j'ai fait d'intelligent, c'est que quand je suis parti à la retraite, j'ai dit, j'écris, je veux écrire, mais sais-tu écrire? Et donc là, j'ai pris un coach. J'ai pris un coach qui m'a enseigné la base aussi du creative writing, de l'écriture créative. C'est pour ça que maintenant, je me permets d'être coach.
Hein? D'accord. Vous...
C'est pas inné, c'est pas venu tout seul non plus.
Et donc, mais dès le début, vous avez senti que vous aviez besoin d'être accompagné pour vous engager dans l'écriture.
Oui, parce que j'ai commencé un roman et puis j'étais pas satisfait, puis je savais pas pourquoi j'étais pas satisfait, etc. Et j'ai eu la chance de tomber sur quelqu'un de formidable, qui m'a vraiment pris par la main, qui m'a accompagné pour mes deux premiers romans. Hein? Alors que c'est pas un auteur, hein, c'est quelqu'un qui fait du théâtre. Hein? Hein? Mais il a beaucoup appris aussi, lui, en creative writing, et puis il était capable de me transmettre les choses.
Et à votre avis, c'est l'essentiel qu'il vous a transmis, c'est
oui.
quoi?
Ah, l'essentiel?
Oui.
C'est qu'un roman, il ne faut pas raconter, il faut montrer. Hein? C'est-à-dire qu'il ne faut pas... Il faut que le lecteur s'identifie au personnage, s'identifie à l'action, et pour ça... Il faut lui montrer l'action. Il faut lui montrer, par exemple, comment les sentiments des personnages se voient sur son physique, sur ce qu'il fait, dans ce qu'il dit, etc. Alors que le défaut de tous les apprentis auteurs, et même de certains auteurs d'ailleurs, c'est de raconter une histoire, mais sans que le lecteur puisse s'identifier ni au personnage ni à l'histoire.
Alors, c'est très intéressant et on va y revenir tout à l'heure parce que ce que vous venez de dire induit un certain nombre de conseils bien précis dans la mise en œuvre de l'écriture. Oui. Alors, Gérard Muller, j'aurais souhaité que vous nous expliquiez un petit peu si vous aviez des sujets de prédilection, quels étaient-ils, d'où venaient-ils?
Alors, comme j'ai écrit à moitié polar, à moitié roman, alors pour les polars, j'ai des sujets de prédilection qui sont le sport, le ski notamment, le golf par exemple, la gastronomie, parce que j'ai fait une douzaine de polars gastronomie, mais aussi l'intelligence artificielle, la montagne pas mal. Oui. Pour mes romans, alors j'ai beaucoup d'autres sujets, j'ai la génétique, j'ai l'écologie, j'ai encore l'intelligence artificielle, j'ai la... l'humanitaire, j'ai fait des romans humanitaires. J'ai fait aussi un roman sur la pédophilie. Alors ça, c'est pas un sujet facile à faire, etc. Mais disons que je me donne un sujet et j'y vais.
Vous n'écartez a priori aucun sujet,
non.
Aucun thème.
Non. J'ai même imaginé, alors je sais pas, ça va peut-être choquer vos éditeurs, j'ai même imaginé que le Messie pouvait revenir sur la Terre. Hein? Mais j'imaginais que c'était une femme dans ce cas-là, et non pas un homme.
Et vous avez écrit un livre sur le sujet,
oui.
Et il s'appelle ?
Il s'appelle, attendez, là vous me coincez parce que j'ai oublié.
Ben vous nous le rappellerez plus tard, il n'y a pas de problème. Alors un petit instant sur votre style d'écriture, sans trop approfondir, puisqu'on va naturellement en reparler, mais il y a quand même une différence entre votre style et ce que vous préconisez même dans le style. Comment vous pourriez caractériser vous-même donc votre propre style ?
Ah, mon style, moi, j'ai un style tout à fait classique. Un peu linéaire, j'essaie d'écrire à peu près correctement le français, mais je ne pars pas dans des floritures, des phrases très très longues, etc., ou une écriture heurtée, ou une écriture, heurtée, trop orale, j'essaie d'être vraiment classique. Et l'autre particularité, c'est que j'écris toujours au présent, que ce soit dans mes polars ou dans mes romans. Tous mes romans sont au présent à la première personne, et tous mes polars sont au présent à la troisième personne.
Et pourquoi ce choix ?
Alors pourquoi ? Parce que d'abord c'est plus difficile, parce que si vous écrivez au passé, et notamment si vous êtes un narrateur qu'on appelle omniscient, vous connaissez l'avenir, vous savez ce qui va se passer après. Hein ? Tandis qu'au présent, vous obligez le lecteur et vous obligez vous-même à vivre le présent. Vous ne pouvez pas connaître le futur. Hein ? À moins que ce soit un présent narratif. Mais moi je fais du présent présent.
Alors, je voudrais vous demander aussi, est-ce que vous jugez que votre style a changé depuis vos débuts en écriture ?
Non. Alors, ça, c'est assez curieux, parce que je suis persuadé que chacun a un style et que c'est très difficile d'en changer. Et que si, alors, ou à moins d'être vraiment un génie, quoi, comme Le Tellier, par exemple, qui est le prix Goncourt, je ne me rappelle plus du titre. Qui, lui, a changé de style sur 12 chapitres, et 12 chapitres avec des styles différents. Mais c'est très difficile. Il faut vraiment une grande, grande maîtrise de soi-même et du français. Et si on veut changer du style sans être un génie, ça se voit tout de suite. Moi, je reste sur mon style. Alors, par contre, il s'est un peu amélioré dans le sens où, par exemple, comme disait Victor Hugo, l'adjectif est la graisse du style.
Il faudra que vous développiez ça tout à l'heure.
Au début,
aussi,
je mettais beaucoup d'adjectifs ou d'adverbes. Et en fait, il faut faire la chasse aux adjectifs. C'est un conseil d'ailleurs que je donne à tous les écrivains, amateurs ou pas. Faites la chasse aux adjectifs et remplacez ça par des images.
Donc on peut dire que le style, quelque part, est lié et déterminé chez chaque individu.
Oui.
C'est très, très, très intéressant. Gérard Muller, je vous propose maintenant d'écouter le premier invité musical, à savoir Monsieur Berlioz.
Thank you.
Parole d'auteur. Philippe Gilbert.
Nous sommes toujours en compagnie de Gérard Muller pour ses ouvrages « Tous les chemins de vie descendent du ciel » et « Rodez en noir et blanc ». Gérard Muller, vous avez choisi le deuxième mouvement de la symphonie fantastique de Berlioz. Est-ce à dire que la musique classique est une grande source d'inspiration pour vous?
Enfin, c'est une source d'accompagnement. Alors, je n'écris pas en écoutant la musique. Il y a des auteurs qui écrivent en écoutant la musique et qui vous mettent même d'ailleurs la liste des... Bernard Werber, par exemple, il met la liste de ce qu'il a écouté pendant qu'il écrit. Non, moi j'écris en silence, par contre... J'écoute de la musique classique, notamment en voiture. J'ai radio classique en permanence en voiture.
Et donc, vous écoutez la musique en dehors de l'acte d'écriture?
Oui, je ne peux pas mélanger les deux.
D'accord. Alors, comme je l'ai précisé au début de cette émission, nous avons deux ouvrages de votre part au menu de cette émission. Un premier ouvrage qui s'appelle « Tous les chemins de vie descendent du ciel », que l'on pourrait qualifier... très grossièrement, vous affinerez la définition de roman, et un second qui s'appelle « Rodez en noir et blanc » et qu'on pourrait davantage qualifier comme étant
oui,
un polar.
C'est un polar.
Alors, est-ce que, sans rien dévoiler des intrigues naturellement, vous pourriez d'abord nous planter le décor du livre « Tous les chemins de vie descendent du ciel » quelle est l'intrigue, quels sont les personnages principaux, puis finalement aussi pourquoi vous avez écrit ce livre, pourquoi c'est les thèmes que vous y exposez.
Alors c'est un roman, hein, c'est un roman de fiction, hein. Et le thème c'est la recherche de l'amour impossible qu'on a perdu. L'héroïne s'appelle Léa, elle est hôtesse de l'air. Et elle a eu un grand amour lors de son adolescence, et ce grand amour, qui s'appelle Guy, a disparu un beau jour, et elle ne l'a plus jamais retrouvé. Okay. Et donc, le roman débute par un vol Air France jusqu'à Nouvelle-Calédonie, et au-dessus des îles Moluques, il y a une grosse tempête, un ouragan qui fait que l'avion se casse en deux, et que Léa tombe dans la jungle. Heureusement, elle tombe sur un arbre qui l'amortit et elle se retrouve au milieu de la jungle. Alors, c'est une histoire qui est arrivée. Hein. Il est arrivé qu'une hôtesse de l'air tombe d'un avion et se retrouve vivant sur une île déserte. Okay. Et à partir de là, bah, elle va essayer de retrouver la civilisation, mais elle rencontre un ermite, un Américain dans la jungle. Ils vont bien sûr se mettre ensemble. Ensuite, ils rencontrent tous les deux une peuplade de pygmées qui pensent que ce sont les restes des hommes de Flores, qui était une civilisation d'hominidés disparue il y a 30 000 ans, mais en fait, ce sont des pygmées de là-bas, etc. Donc, elle partait d'un certain nombre d'aventures, etc. Elle découvre après que l'ermite avec lequel elle retrouve la civilisation est quelqu'un d'un peu spécial, un voyou, enfin... un trafiquant d'armes, etc. Hein. Et ben, je ne vais pas spoiler le bouquin, mais à la fin, le lecteur va retrouver tous les fils, et tous ces fils vont faire une jolie petite histoire avec une fin surprenante.
Alors, vous avez dans ce roman un certain nombre de thèmes qui sont abordés. Vous les avez évoqués, amour, mémoire, exil, guerre, famille, destin, hasard, culture locale, etc. Mais fondamentalement, ce qui est dans la construction de ce roman, vous baladez un peu le lecteur, c'est-à-dire que vous lui faites commencer une chute vertigineuse dans les cieux avec l'hôtesse de l'air, c'est déjà spectaculaire, c'est déjà on se demande d'ailleurs si c'est vrai parce que c'est à peine croyable, c'est dans l'extraordinaire. Et vous disiez à l'instant que c'est arrivé. Et donc, vous basez beaucoup, effectivement, cette histoire sur la notion de rebondissement, le fait d'amener le lecteur à un certain endroit, de le pousser un petit peu vers une solution, et puis après de lui dire, là, tu t'es trompé.
Oui, mais ça, c'est un peu les techniques du polar aussi. Hein. C'est la même chose. Hein. Ouais. C'est-à-dire que je pars du principe qu'il faut... mettre les personnages dans une narration. C'est-à-dire que, par exemple, il ne faut pas dire, ce que je dis à mes élèves, il ne faut pas dire « Léa a peur ». Bon, parce que ça ne signifie rien pour le lecteur. Hein. Par contre, il faut montrer dans une situation comment la peur de Léa se passe. C'est-à-dire quelle est la transformation sur son visage, sur son expression, et puis par ce qu'elle fait. Hein. Donc il faut narrer, il faut décrire comment cette peur existe. Quoi, hein. Donc, de façon à ce que le lecteur puisse retrouver les mêmes sensations de peur par rapport à ce qu'il a vécu lui-même. C'est ça l'astuce. C'est ça le truc. Et donc, il faut mettre le personnage dans des situations où ses émotions, ses sentiments s'expriment. C'est ça tout l'art d'écrire. C'est ça. Hein?
Est-ce qu'on peut dire qu'en quelque sorte, il faut que le lecteur soit mis en immersion dans,
oui.
dans l'histoire?
Oui, c'est un roman réussi, c'est ça. Ouais. Bon, c'est pas facile. Hein? Tout à fait. Il faut que ce que vit le personnage ben, est une résonance avec ce qu'a vécu le lecteur. Et ça va lui rappeler un truc, il dira tiens, oui, dans telle situation, moi aussi j'ai eu ce sentiment, etc. C'est comme ça qu'il va s'approprier l'histoire. Et qu'il va aimer les personnages, l'aimer ou les détester, mais l'important c'est qu'il ait une relation émotionnelle avec les personnages.
Alors Gérard Muller, si vous le permettez, on change de décor, on passe à Rodez en noir et blanc. Alors de quoi s'agit-il cette fois-ci?
Alors celui-là, il fait partie de ma série Musée, puisque j'ai fait un certain nombre de polars sur la musée, où là, le but, c'est de parler du musée, c'est de mettre le musée dans une intrigue policière. Et l'intrigue policière, c'est un prétexte pour parler du musée, en l'occurrence, là, c'est le musée Pierre Soulages à Rodez, qui est magnifique, hein. C'est pour parler aussi de Pierre Soulages et dans ce cas-là, pour parler du hacking. C'est-à-dire qu'en fait, le musée, il est hacké par une hackeuse. Hein, et c'est pour ça que les tableaux d'Outre-Noir, fameux tableau Outre-Noir de Soulages, ben, finalement, il devient blanc suite au hacking. Hein, sans être détérioré. Hein. Okay. Et donc là, le polar, si vous voulez, on va moins chercher à fouiller la psychologie des personnages. On ne va pas aller au tréfonds de l'âme, on va utiliser l'intrigue pour parler de quelque chose. En l'occurrence, là, c'est de Pierre Soulages et de son musée. Hein. Mais ça peut être la gastronomie, ça peut être le sport, etc. Et donc, c'est un prétexte. Contrairement, alors, ce n'est pas des thrillers, c'est ce qu'on appelle des cosy. Cosy crime, c'est un peu comme Agatha Christie, si vous voulez. Il y a une enquête et il y a des crimes. Ou alors des cosy mystéries, et là c'est Gaston Leroux, le mystère de la chambre jaune par exemple. Hein. Contrairement à des thrillers, où là on va aller dans des situations où on va chercher, on va aller dans les noirceurs de l'âme humaine. Hein. Mais là non, j'appelle ça du roman gris.
Du
littérature
roman gris.
Entre le noir et le blanc. Quoi.
Alors ça tombe bien puisqu'on parle de Soulages. Alors
oui.
je voudrais aussi un petit peu illustrer vos propos par rapport à ce livre Rodez en noir et blanc et par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure, que les fausses pistes, un détail supplémentaire pour réorienter le lecteur dans ses supputations. Alors sans déflorer le sujet, mais c'est vrai que dans ce livre, on part d'un musée. On passe par une treilleuse, on passe par une moissonneuse,
oui,
on passe par des suspects, des fausses pistes, on passe par un producteur de vieux Rodez qui, je l'ai appris, est un fromage, on passe par des rebondissements, passe par une panne générale chez Leclerc, par une association canopée, par un VPN finlandais, par un kidnapping, par de l'ultraviolet et de l'infrarouge. Ça, c'est les bons ingrédients divers et variés d'un mont polar.
Oui, tout à fait. Ben, comme vous le dites, il faut amener le lecteur sur une piste et pour le persuader que c'est la bonne piste. Et puis, patatrac, non, il y a un élément qui arrive qui dit non, c'est pas ça, on l'emmène autre part. C'est ça la construction d'un polar, voire d'un roman aussi, quelquefois aussi. Hein.
Et quel est, entre ces deux ouvrages, lequel vous a donné le plus de plaisir dans l'écriture?
Ah, c'est pas pareil, parce que... Alors, moi, le plaisir de l'écriture, alors parce que ça va peut-être pas vous paraître curieux, mais quand je commence un bouquin, je connais le thème, le lieu, etc., les personnages, mais je ne connais pas l'histoire. Je ne sais pas comment elle va se terminer, notamment les polars. Et dans un polar... comme je sais, au milieu du livre, il arrive que je ne sais plus comment je vais finir.
Vous êtes dans une impasse, des fois.
Je suis dans une impasse, parce qu'à partir d'un certain moment, ce n'est plus moi qui commande. Ce sont mes personnages et l'intrigue. Et dans ce cas-là, ce que je fais très souvent, c'est que je prends mon vélo, je fais une heure de vélo, et je sais qu'au bout d'une heure, j'ai 9 fois sur 10 la solution. Et là, la solution, elle est magique. Elle est magique, ça c'est le miracle de l'écriture. J'ai une solution à laquelle je n'avais pas du tout pensé. Hein. Et là, c'est parti. Et là, je termine dans la foulée mon roman. Est-ce qu'on peut... Et ça, c'est un plaisir indicible.
On peut dire qu'un roman, c'est quelque chose qu'il faut laisser reposer un moment.
Alors, les polars. Alors, par contre, le roman, Tous les chemins descendent du ciel, j'ai mis un an et demi à l'écrire. C'est-à-dire que j'ai fait une première version, et puis je n'étais pas content, je n'avais pas trouvé la fin. Après, j'ai rajouté une deuxième partie, etc. Et j'ai laissé reposer pendant 2 mois, et puis je l'ai repris, etc. C'est ce qu'un polar, je fais ça assez rapidement, en 1 ou 2 mois, c'est fait. Hein.
Alors, quand on écrit, on souhaite être lu, et on s'aperçoit que le choix du lecteur par rapport à un livre dans une librairie, par exemple, est très souvent dépendant de la couverture, où c'est un élément qui compte. Alors, est-ce que vous pouvez nous confirmer si c'est un élément qui compte? Et est-ce que vous pouvez nous dire si c'est vous qui choisissez les couvertures et comment vous les choisissez?
Alors oui, c'est un élément très important, surtout pour les petits auteurs comme moi. C'est-à-dire que pour les grands auteurs qui sont chez Gallimard, il n'y a pas besoin d'une couverture. Mais c'est très important. Ce qui est important, c'est le titre, c'est la couverture et la quatrième de couverture aussi, hein, pour persuader le lecteur que ce roman est bon. Et alors, les titres, c'est moi qui ai choisi. Mais après pas mal de réflexions. Hein. C'est-à-dire, au cours de l'écriture, je vais changer 10 fois de titre. Jusqu'au moment où j'ai le bon. Hein. La couverture, c'est un dialogue entre l'éditeur et moi. Hein. Hein. Et la quatrième, c'est aussi un dialogue entre l'éditeur et moi. Maintenant, c'est moi qui fais la quatrième parce que j'ai l'habitude. Parce que c'est la quatrième, il faut...
Vous la rédigez directement,
oui.
Enfin, vous-même.
À la fin, oui. À la fin. Avec mon éditeur, oui. Il me fait confiance pour ça. Voilà. Hein. Okay. Mais avec un autre éditeur, Sudalbi, par contre, c'est lui qui l'écrit. Hein. Parce que la quatrième, c'est du marketing. Hein. Il faut attirer, c'est la pub. Quoi, hein.
Et donc, dans tous les cas, le titre arrive une fois que le livre est terminé.
Oui, c'est-à-dire que j'ai une idée d'un titre au début, puis au cours de l'écriture, il change, etc. Et à la fin, quand j'ai toute l'histoire, le titre... Bon, mais quelquefois, ça met quelques temps, quelques jours à le trouver, mais il s'impose. D'un seul coup, il s'impose. Hein.
Naturellement.
Naturellement. Voilà. Hein. Enfin, c'est le subconscient qui a travaillé, certainement. Hein.
Gérard Muller, je vous propose de recevoir notre second invité musical, Beethoven. Thank you.
parole d'auteur. Philippe Gilbert.
Nous sommes en compagnie de Gérard Muller, venu nous voir pour nous expliquer toutes les techniques d'écriture pour les auteurs novices ou débutants. Gérard Muller, le concerto de l'Empereur de Beethoven, une motivation particulière dans ce choix ?
Oui, bah, Beethoven, pour moi, c'est le plus grand. Hein. Comme disait Lucchini, alors, je ne sais pas exactement sa phrase, c'est la preuve de l'intrication entre l'âme et le corps. C'est pas, il ne parle pas d'intrication, mais ça veut dire la même chose.
Alors, je voudrais que nous passions dans les coulisses de l'écriture. Alors, vous nous avez parlé tout à l'heure de romans de fiction, de polar, de cozy mystery, cozy crime. Vous nous avez donné un petit peu les différences. Par rapport à ces catégories d'ouvrages, comment vous situez la nouvelle ?
Ah, la nouvelle c'est la même chose qu'un roman, mais en trois ou quatre pages ou en cinq pages. C'est-à-dire qu'il faut... généralement, il y a une multiplicité de lieux et de temps, hein, généralement. Hein. Il n'y a pas de flashback, etc., on n'a pas le temps, etc. Il y a un ou deux personnages, il y a une action ou deux actions, et il faut une chute, une nouvelle chance. Sans chute, il n'y a pas une nouvelle. Hein. Et il faut mettre tous ces ingrédients dans 5000 mots, 10 000 mots, hein, au maximum. Hein. Et c'est tout un art parce qu'il ne faut absolument pas prendre des détours, etc. Il faut aller à l'essentiel. Et c'est un exercice très formateur pour ça.
Et est-ce que c'est plus difficile que le roman ?
Oui, je pense que c'est aussi difficile de faire une bonne nouvelle qu'un roman. Hein. Parce que très souvent, les gens se perdent un petit peu dans les nouvelles. Hein. Il faut aller vraiment, vraiment à l'essentiel.
Gérard Muller, je vais vous donner trois définitions du roman. Émanant de trois personnes différentes. Je vous demande simplement, pas de les deviner, puisque je vais vous les donner, mais de nous préciser laquelle vous préférez. Alors, les frères Goncourt disent « Le roman est de l'histoire qui aurait pu être. » Stendhal dit « Un roman est un miroir que l'on promène le long d'un chemin. » Et Flaubert dit « Le roman doit être une œuvre d'art, rien qu'une œuvre d'art. » Quelle est votre définition ?
Moi, je dirais vers Stendhal, encore. Je trouve que c'est pas complet, mais c'est vrai. C'est un chemin. C'est un chemin parce qu'il y a une narration. Il faut qu'il y ait... L'œuvre d'art, c'est trop abstrait. C'est un chemin. Il faut accompagner le lecteur dans un chemin. C'est tout à fait ça. Et c'est un chemin qui reflète quelque chose, c'est ça. Hein. Je trouve que c'est une très, très bonne définition. Oui. On conduit le lecteur sur un chemin. C'est la narration. À travers une histoire, une narration, et le personnage. Les personnages vivent des choses. Et dans ces expériences, eh bien, on arrive à connaître ces personnages, à les aimer, à les détester, et à s'identifier à eux. C'est ça l'astuce.
Alors, la question se pose, quand on en est dans le domaine des conseils en écriture, de dire, d'abord... Qu'est-ce que c'est qu'un bon roman ? Est-ce que c'est seulement une bonne histoire ?
Non, ce n'est pas seulement une bonne histoire. C'est une histoire... Parce qu'une bonne histoire, ça la raconte. On raconte ça à la veillée, par exemple. Hein. Mais même les conteurs, quand vous écoutez un conteur, il fait vivre son histoire. Hein. Il la joue de façon à ce que ses auditeurs la vivent aussi avec lui. Hein. Donc c'est d'abord une histoire. Il faut une histoire, oui, il faut une narration, il n'y a pas de souci. Hein. Il faut que les personnages naviguent dans une narration, mais il faut aussi que le lecteur la vive. Et c'est ça qui est très difficile. S'identifier aux personnages, aime ou déteste les personnages. Mais il faut que les personnages aient du corps.
Est-ce qu'on peut dire qu'il faudrait presque que le lecteur devienne le héros ou le personnage ?
Oui. C'est ça. Tout à fait.
C'est-à-dire
qu'il s'identifie. Sachant que chaque lecteur va avoir une identification un peu différente en fonction de sa vie et de son expérience. Parce qu'il y a des choses qui vont résonner en lui, alors que pour un autre lecteur, d'autres choses vont résonner en lui. Mais l'important, c'est qu'il y ait cette résonance.
Alors, Il y a ce préalable, effectivement, cette résonance, et ensuite il y a la construction de l'histoire, la construction du roman. Qu'est-ce que c'est une bonne architecture de roman? Quels sont les points incontournables?
Alors, il y a deux sortes de... Enfin, moi, je fais... Alors, on me le reproche quelquefois, je fais que des romans à peu près linéaires. C'est-à-dire qu'il y a de très rares flashbacks, et l'histoire se déroule comme le chemin de Stendhal, quoi. Par contre, il y a d'autres auteurs qui jouent sur le passé et le présent, avec des flashbacks, etc. Alors, j'ai fait aussi des romans comme ça, où il y a plusieurs personnages, où on dédie un chapitre à chaque personnage. Par exemple, j'ai fait un roman où il y a deux personnages qui se rencontrent et qui vont raconter la même histoire, qui vont vivre, la bonne histoire va progresser, chacun à son tour pour chacun des chapitres. Ça aussi, c'est aussi une construction possible. Mais moi, j'aime bien le linéaire. Mais il y a beaucoup de romans, d'ailleurs, qui sont linéaires en ce moment.
Alors, vous dites aussi souvent que l'importance du premier chapitre...
Incipit, comme on dit,
Si
on veut être pédant.
Voilà, c'est ça. Alors, ça veut dire, est-ce que c'est valable uniquement pour le premier chapitre?
Non, non. Chaque chapitre doit être un tout. Enfin, c'est ce que je dis à mes élèves. Un chapitre, c'est un sujet qu'on traite à fond, etc. Un peu comme une petite nouvelle, quoi. Et à la fin du chapitre, on ferme la porte et on ouvre une fenêtre. Et la fenêtre, c'est l'envie qu'on donne au lecteur de lire... de franchir la prochaine porte, quoi, ou la prochaine fenêtre, quoi, hein, c'est ça. Donc, il faut que ce soit un tout, qu'il soit cohérent, que à la fin du chapitre, on est comme une nouvelle, la boucle est bouclée, c'est-à-dire que tout rentre dans un cadre, tout se met en place, hein, et on ferme la porte et on ouvre la fenêtre.
Quelque part, il y a le suspense est sous-tendu.
Voilà. C'est la fenêtre.
Ouais. Alors. On peut dire que dans l'écriture d'un roman ou d'un livre, d'une manière générale, il y a plusieurs séquences d'écriture. Il y a la narration, la description et le dialogue.
Oui.
Alors, est-ce que rapidement, vous pourriez nous définir ce qu'est une bonne narration? Quelles sont les conditions pour réaliser une bonne narration?
Alors, la narration, j'ai déjà dit tout à l'heure, la narration, c'est de narrer une histoire dans laquelle le personnage, les lecteurs s'identifient. C'est-à-dire qu'on fait vivre au personnage des actions dans lesquelles leur personnalité s'exacerbe. C'est ça l'œuvre, hein, de façon à ce que le lecteur puisse s'identifier. Donc il faut inventer des situations dans lesquelles les personnages vont se magnifier ou vont... se définir tels qu'ils sont, c'est ça. Et à travers l'action, avant tout des actions, hein, eh bien, on va voir les émotions et les sentiments ressentis par les personnages. Hein. Il faut les montrer, il ne faut pas les raconter. Ben, c'est ça qui est difficile.
Et alors, vous dites qu'il y a des techniques, en particulier le fait de privilégier des verbes d'action.
Oui, alors, par exemple, si l'action est rapide, faire des phrases courtes, même des phrases sans verbe, par exemple, hein, ça marche très très bien, hein, et donner des moments après de respiration, où on fait des phrases plus longues, etc., pour ne pas fatiguer le lecteur, parce qu'il y a des romans où il n'y a que de l'action, et là, c'est un peu fatigant.
Oui. Il faut qu'il respire un peu.
Voilà, donc il faut jouer avec ça, et puis des verbes, alors, soigner aussi le vocabulaire, hein. Il faut éliminer les verbes, ce qu'on appelle les verbes faibles. Être, avoir, par exemple. Moi, je fais la chasse aux verbes être et avoir. Montrer, voir, sentir, etc. Il faut trouver des verbes un peu plus riches, un peu plus imagés. Faire la chasse aux adjectifs, hein, parce que là, l'adjectif, je répète, c'est la graisse du style. C'est Victor Hugo qui dit ça, et en plus, il connaissait Rayon. Hein. Privilégier des images, des comparaisons et des métaphores. Pas en abuser, métaphore, c'est difficile parce qu'il faut la filer, la métaphore. C'est-à-dire qu'il ne faut pas passer d'une métaphore à l'autre. Il faut la filer, il faut l'utiliser jusqu'au bout. Hein.
Et vous parlez aussi d'employer ou d'évoquer des, ce que vous appelez le micro-détail.
Oui, alors oui, ça c'est aussi une astuce, enfin, c'est pas moi hein, qui l'ai inventé, c'est qu'au lieu de décrire une scène dans son général, dans sa généralité, s'intéresser à un petit détail qui va nous faire découvrir toute la scène. C'est par exemple, je prends l'exemple, je pense dans mon cours, hein, c'est l'exemple de la goutte d'eau qui va passer, je sais pas, d'un nuage sur une plante, etc., pour rebondir sur le sol. Et ça nous permet de décrire la forêt, le sol, etc., le climat, etc. La technique du micro-détail. Oui.
Alors, dans les dialogues, vous dites que le dialogue a un rôle spécial par rapport à la connaissance des personnages.
Oui, parce que là, il va s'exprimer. Alors d'abord, il faut essayer de faire le dialogue avec des styles particuliers. C'est-à-dire qu'il ne faut pas retrouver à peu près le même style dans le dialogue que dans la narration. Hein. Chaque personnage a un style particulier, un style oral particulier. Donc il faut que ce soit d'abord oral. Et puis à travers le dialogue, on arrive à découvrir un petit peu la personnalité du personnage à travers ce qu'il dit, quoi. Comment il s'exprime, comment il le dit.
Et tout ça, petit à petit, permet de reconstituer...
Voilà, de reconstituer la psychologie du personnage à travers le dialogue et à travers ce que le personnage va vivre dans la narration.
Alors c'est absolument passionnant ce que vous nous dites. On pourrait y passer encore de longs moments. Je voudrais que juste un dernier point. À vos yeux, la ponctuation, c'est quelque chose de très important.
C'est très très important, très très important. Et je vois malheureusement, même dans beaucoup de bouquins qui sortent, des fautes de ponctuation. Oui. Les virgules notamment. Vous regardez le meilleur exemple, c'est Proust. Vous regardez Proust qui fait des phrases interminables. Mais une telle maîtrise de la ponctuation que les phrases se lisent toutes seules. Hein. Mais il y a des fautes, il y a des grosses fautes de ponctuation. Et vous pouvez changer, avec une virgule, vous pouvez changer le sens d'une phrase. Hein.
Ouais.
Il y a l'histoire d'une virgule dans un contrat qui a coûté 5 millions de dollars. Hein. Hein, je ne sais pas si c'est assez connu, ça. Parce que l'avocat était capable de prouver que l'absence de virgule avait donné une autre signification au contrat, et il a gagné son affaire, à cause d'une virgule.
Alors Gérard Muller, ce sujet de la ponctuation sera donc le point final de cette émission. Je rappelle à nos auditeurs, lecteurs, que s'ils veulent s'essayer à l'écriture, ils peuvent contacter l'association Philémon.
Oui, 95 rue Saint-Michel, à Toulouse.
Et qu'ils pourront donc recevoir au sein de cette association, et à travers vos précieux conseils, un certain nombre d'informations pour pouvoir... s'avancer dans la carrière d'écrivain.
Oui, j'ajoute d'ailleurs, d'abord que je suis bénévole, hein, et que vous pouvez apprendre à écrire pour la modique somme de 35 euros par an.
Alors, chers auditeurs, je crois qu'il n'y a plus aucune hésitation à avoir. Gérard Muller, je rappelle les deux ouvrages que vous nous avez présentés aujourd'hui, Rodez en noir et blanc et Tous les chemins de vie descendent du ciel. Merci infiniment d'être venu à Parole d'auteur. Merci aux auditeurs pour leur fidélité. Merci à la technique pour leur soutien. Je rappelle que vous pouvez réagir à cette émission sur le site de Radio Présence et qu'elle est disponible sur toutes les plateformes numériques en podcast. Au revoir à tous et bonne lecture.